Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Donald Trump is back et il savoure le moment. Entouré de sa famille et de son futur vice-président la nuit dernière en Floride, le milliardaire revendique une victoire sans appel.
It's a political victory that our country has never seen before. Look what happened. Is this crazy?
Avec une large avance contredisant tous les sondages, le républicain a distancé sa rivale démocrate.
Donald Trump will become the 47th president of the United States.
Les supporters de Donald Trump jubilent.
Il va rendre tout le monde heureux à nouveau. Même ceux qui ne voulaient pas de lui comme président seront plus riches, plus en sécurité, en meilleure santé.
Mon costume représente les briques d'un mur, car je pense que l'Amérique a besoin de contrôles plus stricts aux frontières, et le président Trump le fera.
Ambiance morose, par contre, dans les rangs démocrates. Kamala Harris a raté son rendez-vous avec les électeurs. La débâcle est d'autant plus sévère que le camp républicain obtient la majorité au Sénat et pourrait conserver la Chambre des représentants. Donald Trump aura-t-il les pleins pouvoirs? Avec qui va-t-il présider au destin des États-Unis? Hier soir, un invité de la soirée privée organisée par le Républicain n'est pas passé inaperçu. Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, très présent durant la campagne, était fier de son champion.
Le peuple américain a donné à Donald Trump un mandat très clair pour le changement.
Alors le Républicain est-il mieux entouré, plus préparé qu'il y a 8 ans pour appliquer son programme? Le Trump de 2024 est-il le même que le Trump de 2016? Pour le meilleur ou pour le pire?
On va voir ce qu'en pensent nos invités. Cole Stengler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste franco-américain. Vous travaillez pour l'hebdomadaire The Nation. Selon vous, le vote d'hier traduit une forme de colère contre l'administration Biden. Contrairement à ce que l'on croit, l'économie, par ailleurs, ne va pas si bien aux États-Unis. À côté de vous, Pierre Bourgois, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Votre dernier essai, Le néoconservatisme américain, la démocratie pour étendard, est paru au PUF. Et selon vous, Kamala Harris a été incapable de parler à l'Amérique profonde, celle des oubliés, des déclassés. Trump, lui, est resté le même. Sa vision du monde n'a pas changé. Et à côté de vous, Elisa Schell. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Politologue, rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Selon vous, la réélection de Donald Trump est une demi-surprise. Les instituts de sondage ont à nouveau sous-estimé le vote en sa faveur. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il perd des voix. Il perd des voix par rapport à 2020. Non, par rapport à 2016.
Par rapport à 2020, absolument.
Et on démarre avec le chiffre du jour. Ben justement, on reste dans les chiffres.
Exactement. Donald Trump a recueilli donc 5 millions de voix de plus que Kamala Harris. Selon les derniers décomptes, il a obtenu 71,9 millions de suffrages contre 66,9 millions pour sa rivale Kamala Harris. Le républicain a ainsi remporté, en plus des grands électeurs, eh bien, le vote populaire. C'est une première depuis 2004. Cole Stengler, Trump est vraiment populaire. Est-ce que c'est ça le fait marquant de cette élection?
Je pense que ce que Donald Trump a réussi à faire, c'est qu'il a compris qu'il y avait une colère profonde liée à l'économie. Et on parle beaucoup de l'inflation, donc c'est en partie lié à l'inflation qu'on a vu surgir ces dernières années. Mais je pense que ça va bien au-delà de l'inflation. Vous regardez les salaires qui stagnent aux États-Unis, vous regardez le manque de protection sociale aussi, ce qui conduit aussi à une forme de une perte de confiance dans l'État. Et je pense que tout ça, ça encourage cette espèce de méfiance et de colère que Donald Trump a pu profiter de ça.
Instrumentaliser.
Il faut aussi se rendre compte du fait que Kamala Harris est et de fait, par sa position, elle est vice-présidente, elle est associée avec l'administration de Joe Biden. Et donc, par conséquent, elle fait partie de cette... la colère se dirige contre elle.
Mais pour rester sur ce score inattendu, Elisa Schell, tout de même, on disait que l'Amérique était très divisée. Mais pardon, là, elle semble majoritairement conservatrice et elle a porté au pouvoir un homme eh bien, qu'elle adoube complètement, non ?
Eh bien, il faut aussi lire ces chiffres au regard de ce qui avait été les résultats de 2020. En 2020, les démocrates ont fait 81 millions de voix. 81 millions. Là, Kamala Harris rassemble 67 millions. Vous vous rendez bien compte de la différence et de ces démocrates qui ne sont qui ne se sont pas déplacés ou de ces indépendants qui n'ont pas choisi de soutenir Kamala Harris. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 30% de démocrates, 30% de républicains et 40% d'indépendants. Et chez les indépendants, ils sont allés voter Trump plus qu'en 2020 et ils se sont plus mobilisés que les démocrates eux-mêmes.
Pourquoi ?
Parce que Kamala Harris n'a pas convaincu, elle n'a pas le charisme nécessaire, elle n'a pas réussi à capter la lumière, l'attention, la sympathie, le relationnel. Et puis il y a bien sûr le bilan. Le bilan économique, il est là. Le bilan sur l'immigration n'est pas neutre non plus. Donc, c'est très clair que les démocrates n'ont pas convaincu dans leur mandat et que Kamala Harris n'a pas su relever le gant. Il y avait eu un espoir cet été. On parlait de Kamala Mania. On pensait qu'elle allait l'emporter et renverser complètement la table, alors que pas du tout. Elle n'a pas réussi à être allée au bout de sa dynamique.
Pierre Bourgois, les outrances qui choquent de ce côté-ci de l'Atlantique, eh bien, en fait, aux États-Unis, n'ont pas choqué autant.
C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer Donald Trump et le phénomène Trump. D'ailleurs, je pense que le phénomène Trump arrivera à survivre après Donald Trump. En réalité, Donald Trump, c'est sa force. À chaque fois qu'il est acculé, à chaque fois qu'il est en difficulté, on l'a vu aussi dans le monde des affaires. Il y a eu un film d'ailleurs récemment qui décrivait le Donald Trump des années 80 à New York.
The Apprentice.
Exactement. Dès qu'on voit qu'il est donc en difficulté, acculé, même peut-être même fini, donc que ce soit politiquement, on sait ce qu'on pensait en 2020, ou dans le monde des affaires, il renaît de ses cendres. Et de quelle manière ?
C'est-à-dire que là, littéralement, puisqu'il y a eu d'autres tentatives d'attentat.
Exactement. Le point levé, là, fight. Ouais. C'est donc cette capacité de résilience qui séduit une partie du peuple américain. Mais je dirais que ça ne se joue pas que sur des questions de personnes. Il y a donc un phénomène plus profond. Vous avez évoqué dans notre introduction le fait que je mentionne l'Amérique des oubliés, c'est-à-dire que Donald Trump, sa force, c'est d'avoir réussi à capter cette partie de l'Amérique qui se sent complètement délaissée, à la fois par les politiques libérales au sens large, la mondialisation, et par l'establishment politico-culturel américain.
Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna Trump et la justice, car c'est un repris de justice.
Oui, exactement. Cette année, en 2024, Donald Trump était poursuivi pour 4 affaires pénales. La première, c'est l'affaire de l'actrice porno Stormy Daniels. En mai, il a été reconnu coupable de falsification des comptes de campagne de 2016 pour avoir payé 130 000 dollars à cette actrice, donc, qui ont ensuite été maquillés en frais juridiques. Donald Trump encourt donc jusqu'à 4 ans de prison pour cette affaire, mais avec sa victoire, il pourrait demander le report de cette condamnation à la fin de sa présidence, donc dans 4 ans. Il a également aussi été inculpé pour recel de documents classifiés dans sa propriété de Mar-a-Lago, mais au mois de juillet, la juge a finalement annulé toutes ses poursuites. Et enfin, il est visé dans 2 procédures fédérales pour lesquelles les poursuites sont toujours en cours. Un complot à l'encontre de l'État américain, c'est l'affaire de l'assaut du Capitole en 2021 et la fraude électorale en Géorgie en 2020. Cole Stangler, malgré toutes ces affaires pénales, les électeurs ont quand même voté pour lui. Ça ne les a donc pas du tout repoussés ?
Je pense qu'on est, vraiment face à... Je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a un mal très profond en fait, dans la société américaine. Que je pense que là, on va commencer vraiment à en parler plus. Mais la société américaine ne va pas bien. Et je veux dire, c'est presque, ça va au-delà, presque, j'ai envie de dire, de la politique. Quand vous regardez cette société qui est atomisée, qui est fracturée, où il y a de moins en moins d'espace commun, mais vraiment au sens propre, moins d'espace partagé, où les gens sont de plus en plus isolés. Ils ont chacun leur niche d'où ils vont lire leurs propres médias préférés, écouter leurs podcasts préférés.
Leur bulle
préférés.
Primitive,
ils sont,
comme
ils
on
sont
dit.
Dans une sorte de bulle. Et je pense que... Il y a une forme de résignation, de manque de confiance dans l'État, finalement, aussi. Et donc, c'est pour ça que, pour comprendre comment on peut arriver à un stade où vous venez de montrer tous les procès différents, il faut vraiment comprendre qu'on est dans une société où les gens ont perdu confiance en la politique, où on peut avoir encore un autre procès, et finalement... les gens vont continuer à soutenir leur candidat. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre ce sujet qui ne va pas. Et d'ailleurs, juste une petite dernière chose que je voulais souligner, c'est la question de la participation aussi, qui finalement n'était pas si élevée que ça. Ce qui montre aussi ce mal profond.
Oui, il a perdu 2 millions d'électeurs quand même depuis 2020. Donc, ce n'est pas une vague trumpiste.
Ce n'est pas un raz-de-marée.
Ou un sursaut, c'est un raz-de-marée du point de vue des résultats. Parce qu'avec le système électoral, celui qui gagne la majorité emporte tous les sièges. Donc, c'est impressionnant si on regarde les votes du collège électoral, effectivement. Mais il perd des voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il gagne une élection avec moins de voix qu'il ne l'avait perdu.
Avec un plus grand différentiel quand même par rapport aux démocrates. Pierre Bourgois, pour revenir sur l'homme Trump, qu'est-ce qui a changé entre le Trump de 2020 et le Trump de 2024, fondamentalement ?
C'est une bonne question. Je dirais, finalement, pas grand-chose. quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire que je pense que l'homme en tant que tel est toujours le même. C'est-à-dire certes, il a sa volonté de revanche qui maintenant est évidemment est décuplée, mais finalement, je pense que son idéologie, s'il en a une, en tout cas, est la même. Je pense qu'il se conduira de la même manière vis-à-vis de l'international et d'une manière générale, mettre en place les mêmes grandes politiques économiques, sociales, etc. Par contre, ce qui a changé, c'est le contexte.
C'est l'entourage.
L'entourage et le contexte plus général, que ce soit international, évidemment, je mentionne la guerre en Ukraine, le conflit au Proche-Orient, mais plus généralement, je pense le déclin américain bien plus entamé aujourd'hui qu'il ne l'était en 2016, et la société américaine, vous l'avez évoqué. Je pense que la société américaine qui, en fait, est polarisée, mais est polarisée depuis déjà bien longtemps. Le phénomène Trump n'est pas la cause. Je pense que c'est une conséquence, ou en tout cas, la polarisation s'observe depuis le milieu des années 2000. Je pense que depuis les interventions en Irak, en Afghanistan, je pense que la société américaine est fracturée, vous l'avez évoqué. Et donc, si vous voulez, cette difficulté sur le plan international de l'Amérique et de la société américaine sur le plan interne, elle est beaucoup plus marquée aujourd'hui. Donc ça, c'est le contexte dans lequel Donald Trump va devoir évoluer.
Et le parti républicain a aussi beaucoup changé. Puisque ce qui a changé, ce sont aussi les trumpistes. Là, on voit dans cette élection qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui étaient anti-Trump, qui avaient voté pour sa poursuite suite à l'affaire du Capitole ou qui avaient voté pour son impeachment, qui ont pris leur retraite. Donc, on a plus de trumpistes dans les rangs du parti républicain.
Et le parti est à sa main, quoi.
Et ça fait une grosse différence. Il a placé aussi l'une de ses proches à la tête du parti. Donc ça fait une différence pour conduire les affaires du pays, maintenant qu'il est au pouvoir.
Et d'ailleurs, dans son premier discours de victoire très improvisé, comme à son habitude, Donald Trump a remercié ses fidèles soutiens, dont son futur vice-président, le très conservateur Jed Vance. Écoutez Donald Trump.
Il est un feisty guy, isn't he? Say a couple of words.
Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey. I thank you for the trust that you placed in me. And I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. We're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership.
Cole Stengler, est-ce que c'est ça aussi une différence par rapport à 2020? Maintenant, il a des idéologues autour de lui encore plus conservateur que lui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous le ressentez comme ça, avec J.D. Vance?
J.D. Vance est emblématique d'une certaine radicalisation du Parti républicain, c'est sûr, mais je pense qu'un autre élément qui a beaucoup changé quand on pense à Trump, ou Donald Trump de 2016, même au Trump de 2020, c'est la centralité de l'immigration. C'est l'opposition à l'immigration et le rôle que l'immigration joue dans l'imaginaire politique des Trumpistes, où on va dire, non seulement on va reconnaître qu'il y a cette colère profonde, qui est liée à l'économie et tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Mais Trump, maintenant, continue à... Il désigne le bouc émissaire, qui est non seulement l'immigré, mais l'immigré sans papier.
L'ennemi de l'intérieur. Mais on va en parler tout à l'heure, mais Pierre Bourgois, est-ce qu'il est mieux préparé? On a parlé, on a entendu parler, on a lu sur ce fameux Project 2025, où il serait entouré de gens qui réfléchissent depuis 4 ans, qui envisagent de licencier, d'évacuer les fonctionnaires pour mettre les leurs. Est-ce qu'il est vraiment mieux préparé?
Mieux préparé, c'est une question complexe. En tout cas, le projet 2025, c'est un peu une épine dans le pied, parce qu'il a toujours essayé de s'en distinguer. Même si eux le mentionnent beaucoup à chaque fois, je crois que c'est mentionné plus de 300 fois justement dans ce projet 2025. Bon, c'est un petit peu délicat. Pour l'instant, pour être honnête, c'est un peu l'inconnu. Parce que cette campagne n'a pas, et peut-être qu'on en parlera, mais cette campagne a quand même été de très faible qualité. On n'a pas eu un programme contre un autre programme, ça a été beaucoup d'attaques personnelles. Et d'ailleurs, c'était la stratégie des deux candidats. Kamala Harris est tombée dans le piège pour moi de Donald Trump en rentrant dans ce combat personnel. Et finalement, on a très peu de vision sur, on peut spéculer, mais on a très peu de vision sur vraiment
ce qu'il
veut faire concrètement, exactement.
Elisa Chen, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que cet homme qui est dans le système, tout de même, apparaît toujours comme étant anti-système pour les Américains.
Ah oui, ça c'est un vrai tour de force, puisque quand il a été élu en 2016, il a été élu en tant qu'outsider. Il n'avait pas eu de fonction exécutive, pas de fonction politique, donc il pouvait vraiment dire, je suis un homme d'affaires qui a réussi et je viens avec mon programme pour les États-Unis. Et il a réussi à garder ce ton anti-establishment tout en ayant l'expérience. Ce qu'il y a quand même une grande différence maintenant, c'est qu'il a 4 ans d'expérience de la Maison-Blanche. Donc il sait comment ça fonctionne de l'intérieur. On se souvient que pendant son premier mandat, les hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche s'étaient opposés à ses projets et il avait saboté un certain nombre de ses projets. Là, maintenant, il sait mieux s'y prendre. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a le système qu'on appelle le système des dépouilles, qui veut dire que les fonctionnaires sont renouvelés pour partie.
Système,
exactement, le spoil system, qui fait que les fonctionnaires sont renouvelés. Donc, de toute façon, dans les textes, il a le droit de placer un certain nombre de ces gens dans son entourage, dans le
fonctionnement. Il faut aller plus loin, dans les strates de l'administration,
De l'administration. Après, bon, il y a un vivier qui est aussi assez limité, donc il ne peut pas non plus faire une tabula rasa de l'administration. Mais de toute façon, le fait qu'il place des proches, en tout cas des fidèles, dans l'administration, c'est plutôt attendu, et c'est ce qu'il doit faire, parce que sinon, il ne pourra pas gouverner.
Il pourra gouverner, ouais.
Et si on revient sur l'aspect politique de ce qui a été évoqué, moi, je pense même qu'il est plus fort aujourd'hui, parce qu'il a une légitimité, vous avez évoqué le vote populaire, il a remporté le vote populaire, et surtout, vous l'avez évoqué, il a un bilan. Et être réélu, donc c'était pas arrivé depuis le 19e siècle, être réélu comme ça, donc il peut se dire, finalement, les Américains ont soutenu mon bilan.
Mm. Et surtout, vous pensez que Trump était la machine à perdre, puisqu'il avait gagné en 2016, mais perdu les élections de mi-mandat, perdu en 2020, perdu en 2022, donc les Républicains étaient prêts à le passer à la trappe, et là, on se rend compte qu'il peut encore gagner lorsque les démocrates...
Et en plus, il peut avoir le Congrès à sa main. On va en parler avec vous, Anna.
Oui, car hier, les Américains votaient aussi pour le Sénat et la Chambre des représentants. Et donc, le Sénat, on l'a appris ce matin, vient de basculer côté républicain avec 52 sénateurs, alors que depuis 2020, les démocrates y détenaient une très courte majorité, mais majorité quand même. Alors, le Sénat, c'est cette institution qui vote les lois, mais aussi les traités internationaux et approuve ou pas les déclarations de guerre. La Chambre des représentants, elle, était dominée par les républicains ces deux dernières années. Qui pourrait garder la main? Pour le moment, il dispose, on le voit ici à droite, de 201 sièges. Il en faut 218 pour obtenir la majorité. À la Chambre des représentants, eh bien, on vote le budget, les lois fédérales. Mais c'est aussi à cet endroit que sont décidées les commissions d'enquête ou les procédures de destitution à mener. Et pour rappel, sur les 9 juges de la Cour suprême, 6 sont républicains, on les voit ici en rouge. Avec ces 3 institutions donc, qui sont potentiellement majoritairement républicaines, Trump n'a jamais été aussi près d'avoir les pleins pouvoirs, Cole Singler.
Oui, et ce qui est dur à comprendre aussi, à prédire en tout cas, c'est qu'est-ce que Donald Trump va vraiment faire au pouvoir. Comment on vient de le dire, ce programme reste assez vague, mais il faut quand même dire, peut-être on aura l'occasion d'en revenir, mais la centralité de la lutte contre l'immigration, c'est vraiment le point central. Je pense que là, on va avoir un basculement très important. Mais bon, il est très vague sur son programme.
Juste une question, Pierre Bourgois, il y aura des contre-pouvoirs solides, que ce soit la société civile, la presse, d'autres institutions, est-ce que des contre-pouvoirs pourront exercer
Pour toute présidence, il faut qu'il y en ait. La démocratie se définit par les contre-pouvoirs.
Et sont-ils pas fragilisés quand on voit ce raz-de-marée, d'une
Alors,
certaine façon
ils sont fragilisés, c'est-à-dire que c'est la démocratie qui a parlé. C'est-à-dire que là, on est obligé d'admettre que ce n'est pas un coup d'État, c'est un vote populaire qui donc permet à Donald Trump, potentiellement si la Chambre est confirmée, d'avoir les pleins pouvoirs, pas forcément ce terme, parce que normalement, le rôle du démocratie, c'est d'avoir normalement quand même des contre-pouvoirs.
Qui avait fait le grand chelem comme ça avant lui, pardon? Qui avait fait le grand chelem, c'est-à-dire le Congrès, le vote populaire, les grands électeurs?
C'est Joe Biden, finalement, en 2020, qui a la Maison Blanche, le Sénat, la Chambre des représentants, et puis avant Barack Obama. Mais pour revenir sur la société civile, ça me fait penser à 2016, le choc de Donald Trump et élu en 2016. Il y avait ce moment on appelle ça la résistance. Donc il y avait vraiment cette opposition face à Trump. Les gens voulaient lire la presse, s'abonner au New York Times, au Washington Post. Il y avait vraiment cet intérêt pour la politique. Là, on est passé à un autre stade où les gens, je pense, commencent à avoir un peu marre de la politique, si je peux dire comme ça. Trump est banalisé. Donc je pense que ce phénomène de résistance ne va pas se reproduire.
Et vous parliez tout à l'heure des ennemis de l'intérieur, justement. C'est l'autre différence avec le Donald Trump de 2020. Et bien celui-ci, 2024, il les a désignés, ses ennemis de l'intérieur. Écoutez.
I think the bigger problem are the people from within. We have some very bad people. We have some sick people, radical left. We have two enemies. We have the outside enemy, and then we have the enemy from within. And the enemy from within, in my opinion, is more dangerous than China, Russia, and all these countries.
Élisa Schell, mais qui sont-ils alors dans son esprit, ses ennemis de l'intérieur? Est-ce que sont les démocrates? Et est-ce que quelque part, il incite à la violence?
Ce sont ces immigrants illégaux.
D'abord
les immigrants illégaux parce que les populismes, de droite sont portés par le sujet de l'immigration. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas ça pour faire une figure de style. Il dit ça parce que ça va dans le sens de ce que pensent les électeurs. Donald Trump va aussi beaucoup dans le sens de ce que pensent les gens pour que les gens votent pour lui, d'ailleurs, et ça a marché. Donc, le sentiment anti-immigration est très fort dans la population, à la fois dans la communauté latino, pour qui c'était le premier sujet dans cette élection, qui voit d'un très mauvais œil l'immigration illégale et la criminalité, la question du fentanyl, donc la circulation des drogues, de synthèse contrefaite qui tue un certain nombre d'Américains, et aussi pour les autres Américains qui pensent que cette immigration est incontrôlée. N'oublions pas que dans le post-Covid, on a eu une levée des restrictions qui a créé un afflux totalement incontrôlé d'immigrants sur le territoire américain en rattrapage des années Covid où il y a pas eu, où il y a eu une fermeture des frontières. Donc il va aussi à la rencontre de ses électeurs.
Et Pierre, je parlais des démocrates, parce que dans ce propos, il dit des gens malades, des fous de gauche, radicaux tout de même. Donc il cible un adversaire politique en disant qu'ils sont très dangereux.
Exactement. Ça a été depuis, on a vu beaucoup de campagnes sur les réseaux sociaux d'ailleurs, ce qu'on appelle évidemment le wokisme. Ça a été l'ennemi public vraiment de Donald Trump et du camp républicain. Et lorsqu'on parle justement de l'emprise du trumpisme donc sur le Parti républicain, c'est peut-être sur cette logique-là. C'est-à-dire que tout le Parti républicain, en tout cas, semble être opposé à cette branche très progressiste à gauche.
Si je peux dire, c'est pas que les wokistes. Trump a dit qu'il voulait utiliser le département de justice pour cibler ses adversaires politiques. Donc on risque de voir ça. Ça va au-delà d'un débat sur les wokistes. Là, on a un président qui a dit qu'il veut utiliser le ministère de la justice, enfin le département de la justice, pour cibler ses adversaires politiques. Donc, on est quand même passé à c'est du jamais vu.
Là, on parle de la hantise de Donald Trump par rapport à ce que des Français ont appelé à une époque le grand remplacement, donc l'immigration. Est-ce que l'écologie va être aussi la grande perdante sous le mandat de Donald Trump, avec son obsession pour les énergies fossiles, sa volonté de saboter ce que Joe Biden avait fait en sanctuarisant des espaces naturels? Est-ce que ça va être la grande perdante?
En tout cas, l'écologie telle qu'on en parle dans les grandes institutions internationales et dans les sociétés européennes, ça c'est clair.
On est à 3 jours de la COP29.
Exactement. Donald Trump, c'est celui qui s'est donc retiré des accords de Paris. Donc là, encore une fois, je te disais qu'il y a très peu de changements. Je ne vois pas un Donald Trump qui d'un coup change de ligne. Il gardera cette même ligne de manière unilatérale. Si un accord est contraire à ce qu'il estime être les intérêts américains, il le quittera, ça c'est sûr.
Mais c'est aussi l'intérêt économique d'un certain nombre d'États que des énergies fossiles. La Pennsylvanie, par exemple, qui dépend de l'extraction du gaz de schiste pour employer et rémunérer
Il a été élu pour ça.
Sa population.
Pardon, mais juste, est-ce qu'on peut imaginer un Trump un peu assagi ou pas? Parce que là, c'est Trump contre le monde entier. Mais est-ce qu'on peut se dire, Kohlsinger, que quelque part, il peut nous surprendre puisqu'il n'a rien dit de son programme?
Je pense que, juste comme on parlait de l'écologie, par exemple, je pense que Donald Trump ne s'intéresse pas à l'écologie. C'est plus un sentiment d'indifférence. Les Républicains, ils ont leur priorité, ils ne s'intéressent pas à l'écologie. D'ailleurs, on pourrait dire la même chose de l'Union européenne, par exemple. C'est vraiment un sentiment d'indifférence. Je pense que la France, l'Union européenne, ce sont ils s'en foutent de la France et de l'Union européenne. Je pense que c'est... Je suis désolé de dire les choses si crues que comme ça,
mais
je pense
que
c'est vraiment dans la mentalité, dans l'imaginaire trumpiste, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Et je pense que c'est très important de le comprendre.
Très bien. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur ce que sera le prochain mandat de Donald Trump à partir du 20 janvier 2025.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.